13 à la minute, 790 à l'heure, 19 000 par jour, 19 000 morts par jour. Du 22 juin 1941 au 9 mai 1945, la Grande Guerre patriotique a tué 19 040 soviétiques par jour. 27 millions de morts durant les 1418 jours de cette boucherie. Après la guerre, 22 millions de cartes de blessés furent distribuées. Le plus haut lieu de cette boucherie, c'est ici, Stalingrad, qu'on appelle aujourd'hui Volgograd depuis 1961. Stalingrad, 180 jours qui basculèrent le monde il y a exactement 60 ans, le 2 février. Le 2 février, la victoire des soviétiques sur le nazisme renversait le cours de l'histoire. Une épopée incroyable, un enchevêtrement de barbarie et de bravoure que nous racontent les anciens, les vétérans, militaires ou civils que nous rencontrons dans cette ville où la mémoire a été mise en scène de façon stalinienne, mais où le culte de cette mémoire, de cette histoire, n'empêche pas de faire passer une tragédie humaine dans toute sa profondeur, comme si c'était hier. On nous raconte toutes sortes d'histoires, mais une toute petite, brève, pour vous donner une idée, en février 43, quelques semaines après la victoire, dans les ruines de la ville, malgré tout, on dansait, et histoire de s'amuser, les garçons prenaient des cadavres d'Allemands gelés, les dressaient, leur mettaient un revolver dans la main et les mettaient au coin d'une rue ou appuyés sur un mur, histoire de faire peur aux filles. Toute petite histoire qui permet de mesurer ce qu'a pu être la férocité, la folie de cette bataille et, encore une fois, de cette victoire. On vous racontera tout ça à notre retour. Et aujourd'hui, une autre histoire, celle du chômage. Le chômage est une fatalité, un effet de la crise, on n'y peut rien, c'est un phénomène sur lequel nous n'avons guère de prise. Et Gilles Balbastre, le cinéaste Gilles Balbastre, a montré que le chômage a une histoire. Et si on veut agir dessus, ben, il faudrait peut-être d'abord connaître cette histoire à travers des documents d'archives, notamment à la télévision. Il a montré que cette fatalité n'en est pas tout à fait une. C'est notre thème d'aujourd'hui.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis, le chômage a une histoire.
Flight number 2, arriving from New York.
En ce mois de janvier 1967, le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, accorde une interview à la télévision française. La France d'alors ne compte que 250 000 chômeurs, et pourtant le premier ministre s'inquiète.
Nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français.
Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution. Ainsi parlait en janvier 1967 Georges Pompidou, alors que la France en janvier 1967 ne comptait que 250 000 chômeurs. Et ce matin, aujourd'hui même, il y aurait en France 2 167 000 chômeurs. Comment en est-on arrivé là, entre la déclaration de Georges Pompidou de janvier 67 et aujourd'hui? Eh bien, c'est une question qui a préoccupé Gilles Balbastre. Et c'est vrai, Gilles Balbastre, que le chômage, on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de débats. Il y a des reportages aussi, peut-être moins de reportages que de débats sur le chômage, mais une histoire du chômage, on n'en avait pas encore.
Ben, disons que on a tenté de rassembler des éléments qui étaient souvent disparates et qui n'étaient pas liés les uns aux autres. Il y a pu avoir effectivement des films, des documentaires, des reportages sur les dégâts du chômage, des témoignages de salariés licenciés, etc. Il y a pu avoir des propos d'hommes politiques, des débats. Ça, économique, c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce qu'il y a à la télévision. Il y a très peu de débats au fond économique, mais il y a eu des choses. Pas toujours, à certaines périodes. Et l'idée, ça a été aussi de construire au fond une histoire, parce que il s'était passé suffisamment de choses, ou des choses avaient suffisamment changé pour regarder cette période avec un regard, entre guillemets, modestement parlant, d'historien, entre autres, par exemple, parce que le marché du travail avait profondément changé.
Il n'y a pas de moyen plus violent de coercition des employeurs et des gouvernements contre les salariés que le chômage. Aucune répression physique, aucune troupe qui matraque, qui lance des grenades lacrymogènes, ce que vous voulez, rien n'est aussi puissant comme moyen contre la volonté tout simplement d'affirmer une dignité, d'affirmer la possibilité d'être considéré comme un être humain.
Henri Krasucki.
C'est ça la réalité des choses.
C'est un travail absolument passionnant parce que ça raconte le chômage, mais ça raconte l'histoire sociale de ces 35 dernières années, puis notre histoire tout court. Il y a une émotion, il faut dire, hein, en regardant simplement les images, le vieillissement des uns et des autres. Il y a tout un tas d'éléments très sensibles comme ça que vous avez utilisés.
Quand on m'a dit ça, moi qu'il fallait que je m'en aille. Oh, ça m'a fait un choc, c'est terrible.
Vous ouais. Attendiez ou pas?
Comment?
Vous vous y attendiez ou pas?
Ben, on entendait des bruits, mais de la réalité, la réalité est bienvenue. Un beau jour, le contremaître me dit, Gabi, va falloir tailler au grand bureau. Oh, quoi faire? C'est fini. Tu vas rester chez toi. Oh là là. J'aurais pu avoir la camionnette pour y aller. Non, j'ai été à pied. Et je ruminais, ça y est, je suis foutu. Rester à la maison, quoi faire?
Vous aviez quel âge?
57 ans et 7 mois. Quand je vois l'usine qui était, et puis l'usine d'aujourd'hui, on dirait que la guerre a passé. Et où la guerre a passé, il reste plus rien. Il me semble que c'est pareil.
Pour parler de ce travail, il y a avec nous Stéphane Beau et Michel Pialou. qui sont, vous êtes sociologue chacun, vous avez publié il y a 2 ans maintenant un livre sur la classe ouvrière, vous avez longuement travaillé sur Peugeot.
Effectivement, on a fait beaucoup d'entretiens, d'observations, on a pris le temps finalement de parler longuement avec des ouvriers de l'usine, avec différents types d'ouvriers, donc on a travaillé un peu de cette manière, et c'est vrai, dans un moment où, du côté des sociologues, cette question du monde ouvrier était largement oubliée ou occultée, et il nous a paru important justement d'aller un peu contre les discours généraux sur, notamment en termes de ce sujet du travail, sur cette sorte de disparition du monde ouvrier, alors que justement dans l'usine qu'on enquêtait, on voyait qu'il y avait encore des ouvriers qui travaillaient, qui souffraient au travail, qui étaient de plus en plus usés, fatigués, et puis on s'est interrogé sur la question fondamentale à nos yeux de la succession des générations ouvrières.
Alors vous avez regardé le film de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire, et vous dites la peur sociale a changé de camp. Vous allez nous dire en quoi est-ce que, à travers ces 35 années d'histoire du chômage, pour vous, en quoi la peur a changé de camp. Et puis Serge Halimi, que vous connaissez si vous écoutez Là-bas si j'y suis, Serge Halimi, on le rencontre de temps en temps dans cette émission, en tant que journaliste du Monde diplomatique. Et Serge, pourquoi vous êtes venu soutenir Gilles Balbastre?
Il y a toute une dimension de son film qui me paraît particulièrement parlante. C'est la dimension de l'accompagnement idéologique qui a suivi ou qui a évolué de concert avec cette évolution sociale. Parce qu'on se pose toujours la question de savoir d'où viennent les idées.
Ouais.
Après tout, il y a eu quand même un grand basculement idéologique des années 70 aux années 80. Qui a été concomitant avec ce recul social. Alors on peut se demander s'il n'y a pas eu la volonté d'une certaine classe d'opérer une revanche sociale sur une classe ouvrière qui apparaissait trop conquérante et qu'il a fallu dompter. Je crois que Gilles Balbastre suggère dans son film que le chômage a été l'une des armes employées pour dompter la classe ouvrière qui apparaissait un peu trop menaçante pendant les années 70.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, oui.
Humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
Laïra, laïra, yeah. Merci patron.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Nous serons patrons,
à vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons, Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
J'ai voulu aussi que viennent Serge Halimi, Michel Pialou et Stéphane Beau, c'est parce qu'effectivement, faire un travail quand on est un réalisateur, c'est-à-dire au fond, qu'on ne sait pas faire grand-chose, si ce n'est réaliser des films, j'ai puisé dans leurs livres,
et c'est pas
la fausse
modestie.
Non, c'est pas la fausse modestie, parce que j'ai puisé, et c'est important de citer ses sources aussi, même quand on fait ce métier-là à la télévision, c'est j'ai puisé dans leurs livres, dans Retour sur la condition ouvrière de Michel et de Stéphane, sur Quand la gauche essayait de Serge, mais aussi dans des livres et dans des conversations avec eux, avec des gens comme Frédéric Le Baron, proche de Bourdieu, avec etc. la moelle et je dirais l'idée, l'idéologie, la façon d'analyser tout ça aussi, parce que ce ne sont pas que des archives qui s'enchaînent, il faut aussi derrière avoir des idées, parce que soit on se nourrit d'émotions pures, de paroles de ce peuple qui souffre, soit on ne sait pas comment le traiter. Et l'idée, c'était de montrer toutes ces paroles, des paroles politiques, des paroles économiques et des paroles aussi de salariés, de gens, du peuple qui souffrent de ces décisions, de ces prises de décisions. Ce ne sont pas des mondes étrangers. Tout est imbriqué. Et le problème, c'est qu'on a tendance à jamais imbriquer pour ne pas créer d'analyse et pour ne pas créer, au fond, de réflexion. Et ces deux films, moi, j'ai voulu au bout qu'on ne regarde pas en disant, on était à la télé en disant, qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait se battre?
Votre matériau, Gilles Balbastre, c'est la télé elle-même. C'est-à-dire que les archives sont des archives de la télé et c'est aussi une histoire de la télé. Enfin, c'est l'histoire de la façon dont la télé a raconté le chômage depuis cette époque.
Oui, plus ou moins. Plus ou moins, disons que, effectivement, comment la télé l'a raconté ou pas raconté. Enfin, je veux dire, c'est 1% dans la bouillie télévisuelle qu'on a retiré. Et encore, il y a plein de documents qui ne sont pas passés à la télé. Notamment dans les 70, il y a plein de documents qui sont des films militants qui ne sont pas passés à la télé. Alors, faut pas dire que la télé a bien parlé de tout ça. La télé en a parlé, je dirais, encore heureux qu'on ait parlé. On est dans un pays démocratique, encore heureux qu'on puisse trouver quelques archives qui parlent de tout ça. Mais je peux vous dire qu'on a trié. Et fur et à mesure qu'on s'avance dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de masse, de bouillie, je dirais, télévisuelle, parce qu'il y a un éclatement, il y a une multiplication des chaînes, et ben ça mène pas à la liberté, ça amène du bourrage de crâne. Et au fond, c'est de plus en plus difficile de trouver des documents intéressants, de trouver des documents parlants.
Serge Alimi.
Oui, l'autre chose qui est importante, me semble-t-il, c'est de ne pas toujours distinguer le vécu et le pensé. Et il est vrai que le mode habituel de la télévision, c'est de réserver le vécu aux catégories populaires qui peuvent livrer leurs émotions, et puis après, pour le penser, de s'adresser à des experts, à des intellectuels, à des hommes politiques. Souvenons-nous de la manière dont le mouvement social de novembre-décembre 95 avait été présenté à la télévision. On avait en duplex des grévistes qui étaient 60 à s'exprimer en 2 ou 3 minutes, et puis on avait sur le plateau, plastronnant, un certain nombre d'universitaires, de sociologues que Bourdieu qualifierait de sociologues jaunes et de journalistes qui étaient là pour expliquer finalement que, vous voyez, ils sont très émouvants mais ils comprennent pas ce qui leur arrive. Quoi. On est là pour leur expliquer que l'irrationalité, ça suffit. Et là, ce qui est important dans la démarche de Gilles Balbastre, c'est d'expliquer que les gens qui vivent des situations sont aussi capables de les penser. Et parfois mieux que ceux qui ne les vivent pas et qui sont des professionnels de la pensée.
Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'à quelquefois 800, 900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60, 70 bonhommes. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants.
Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui c'est qui est responsable et tout ça? C'est bien de fermer les fosses, mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai qu'au rat de saison, il va à l'école. Quand il va avoir l'âge de travailler, il n'y a rien pour lui.
On préfère laisser, pourtant, au fond des mines, du charbon. Mais on dit que ça va être trop cher pour l'exploiter. Oh, on achète à l'étranger, c'est moins cher.
Attention, moi je suis chômeur, mais l'État me paye pour résoudre la crise. Et il me verse une allocation, et moi je cherche du travail. Et j'en trouve pas. Et puis si j'en trouve, je lui dis pas. Et dès que je reçois l'allocation, tous les mois, je vais m'acheter Modes et Travaux. Parce que dans Modes et Travaux, il y a des patrons en papier de soie. Il n'y a rien de plus agréable que de se torcher le cul avec un patron quand on est chômeur.
Nous vivrons, et l'économie française... Et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ses risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
Alors j'en viens à ce qui inaugure cette histoire donc du chômage, Gilles Balbas, c'est cette déclaration de Georges Pompidou qui en 67 utilise le mot libéralisme, hein, dans votre, c'est le début du film quasiment, et dit désormais on sera préoccupé, il inaugure l'instabilité.
Alors effectivement il y a deux déclarations en fait, ce sont deux interviews. Alors pourquoi on commence en 67? Il fallait bien commencer par quelque chose. C'est pas que l'histoire commence là, hein. Enfin, faut pas non plus exagérer. L'histoire du chômage commence pas en 67. Non, il y a deux choses qui nous ont paru intéressantes. D'abord c'est la création de NPE par un jeune secrétaire d'État à l'emploi qui s'appelait Jacques Chirac à l'époque. Et la deuxième chose c'est effectivement qu'on a des entretiens de Pompidou, deux entretiens au fond. Un premier en janvier 67 qui donne à la télévision. Il dit à partir de maintenant l'emploi va devenir un problème permanent. Non, alors ça fait un peu visionnaire comme ça, mais au fond ça s'explique parce qu'effectivement il va avoir l'ouverture du marché commun en 68 et qui va libérer les frontières. Et le deuxième interview justement arrive quelques mois plus tard, c'est en juillet 67, et il dit notamment aux patrons, aux commerçants, etc., aux artisans, vous avez vécu dans des frontières inadmissibles, dans un protectionnisme inadmissible, il va falloir avoir peur. À partir de maintenant, vous allez vivre dans le risque permanent, tout simplement parce qu'il effectivement, il va falloir ouvrir les frontières. Et derrière, pointe déjà une des notions libérales importantes, c'est parce que, au fond, le citoyen français, qui est un client avant tout, hein, puisque le libéralisme se définit, il faut satisfaire le client, c'est le client roi.
Ben oui.
Même on le dit plus roi que l'actionnaire, et ouais, on sait que c'est pas vrai, mais il faut satisfaire ce client. Et ce client, il a acheté les produits chers, au fond, parce qu'on était dans un protectionnisme inadmissible, dans une économie étatisée, au fond, entre guillemets, hein, régulée par l'État. Et maintenant, il va pouvoir, au fond, payer son produit moins cher grâce à l'ouverture des frontières. Alors, au fond, ce qui se dit pas et ce qui va être formidable, c'est que ce client roi, avant tout, il est un salarié et qu'on va lui rogner tous ses acquis et beaucoup de son salaire pour qu'il devienne un client roi, c'est-à-dire, au fond, un client qui a plus beaucoup d'argent et beaucoup d'acquis pour pouvoir consommer. Il va notamment s'endetter, en tout cas les classes les plus basses, mais ça, on le dira pas. On le dira jamais comme ça. On dira pas que le fameux client roi pour qui on fait tout, ben, il est avant tout un salarié, parce que 80 ou 85% des gens sont des salariés. Et que ce sont ses acquis, cette liberté d'être un salarié aussi, hélas, parfois, même s'il a le lien de subordination qu'il attache à son patron, d'avoir quelques acquis, d'avoir quelques droits, d'avoir quelques protections que lui a donné la mise en place d'un État-providence d'après-guerre. Et que, au fond, à ce moment-là, se joue déjà une notion très libérale. Pompidou le dit, hein, il dit, et si c'est pas ça la notion phare du libéralisme, ça ne sert à rien. Et au fond, bien avant cette idée de mondialisation, ben, c'est l'ouverture des frontières autour de des années 60, fin 60, je pense. Hein, enfin, il y a des gens plus calés que moi là-dedans, n'est-ce pas Stéphane, qui va mettre en place certainement aussi la montée de la compétitivité du coût, la montée de réduire les coûts pour vendre soi-disant moins cher. Et au fond,
Gilles, là, on est en 1967.
C'est ça.
Pompidou s'adresse à une France dans laquelle la classe ouvrière, on dit le mot classe ouvrière, hein, c'est pas un mot honteux, c'est pas un mot pornographique, c'est pas un mot ringard à l'époque, où la classe ouvrière est puissante. Il y a des syndicats puissants, il y a des partis de gauche puissants, et est-ce que on a déjà l'amorce d'une idée pour la classe, puisqu'on est dans une époque où on parle comme ça, pour la classe que Pompidou représente, au nom de laquelle il parle, d'une peur, puisque vous dites la peur sociale va changer de camp autour de ces 35 années, est-ce que Pompidou incarne une peur?
Oui, bah, si on se réfère au cas de Sochaux, par exemple,
Michel Pialou qui parle.
Cette usine que nous connaissons bien, dans ces années-là, le groupe ouvrier, on dit effectivement sur place la classe ouvrière, et c'est une expression à laquelle tout le monde recourt, le groupe ouvrier apparaît puissant. Il apparaît surtout puissant parce qu'il est organisé autour des ouvriers professionnels. Ces ouvriers professionnels ont une conscience. Ils ont des schèmes politiques en tête, ils ont des références en tête, ils agrègent autour d'eux d'autres groupes, et notamment les nouveaux ouvriers qui viennent d'arriver dans les années 60 de la campagne ou de pays lointains, et l'agrégation se fait sans problème. Ils imposent leur logique, et c'est eux qui donnent l'impulsion. Au fond, la question forte, c'est celle des acquis qu'ils doivent obtenir, et ils pensent que ils sont l'avant-garde, et les autres progressivement acquerront les mêmes choses, obtiendront les mêmes droits, etc. Il y a des locomotives, il y a Renault, bien sûr, qui est le phare de la classe ouvrière, mais Peugeot aussi joue un grand rôle. Et cette puissance, bon, elle va se manifester dans le conflit de 68, dans les événements de 68, c'est quand même la grande grève ouvrière, ça, 10 millions de salariés sont dans le coup, et parmi eux, les ouvriers sont le groupe largement dominant.
La grève avec occupation d'usines est adoptée à l'unanimité, moins d'une voix.
Les travailleurs manuels, intellectuels et la population exigent la satisfaction de leurs revendications.
Augmentation générale des salaires.
Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68. Autant qu'une révolte étudiante, 68 est aussi avant tout une révolte ouvrière. Quelques 9 millions de salariés en grève poussent le gouvernement et le patronat à négocier au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle.
C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les classes dominantes vont avoir peur. Et bon, dans les années 68-74 sont des années très très importantes. On le voit bien dans l'automobile. Des choses importantes ont été obtenues, des concessions en 68 au niveau salaire, etc. Le droit d'avoir des délégués syndicaux dans l'entreprise, les acquis sont tout à fait importants. Mais il y a aussi un climat de combativité qui monte et qui va se traduire par de nombreuses grèves, de nombreux conflits et une forme de peur qui va exister dans la classe dominante à partir de ce moment-là.
Serge Halimi, sur la peur de la classe possédante.
Oui, il faut voir que cette puissance ouvrière, c'est pas un phénomène qu'on observe seulement en France. Évidemment, en France, il y a eu les grèves de mai 68, les plus importantes de l'histoire sociale, mais il y a eu aussi à peu près au même moment l'automne chaud italien, c'est 69. Il va y avoir quelques années plus tard la grève des mineurs au Royaume-Uni qui va aboutir à la chute d'un gouvernement conservateur qui est en quelque sorte victime d'un conflit social qu'il perd. Il y a des grèves aux États-Unis aussi à l'époque, donc dans l'ensemble du monde occidental il y a une montée de la contestation sociale et ça se traduit sur le plan idéologique. Souvenons-nous que François Mitterrand, quand il prend le contrôle du Parti Socialiste à Épinay en 1971, dit, et je crois que je le cite presque textuellement, « Qui ne veut pas la rupture avec le capitalisme, je le dis, ne peut pas être membre du Parti Socialiste. » Même en 1980, un an avant d'être élu président de la République, il invoquera Lénine. Et il dira « Je crois comme Lénine à la conquête du pouvoir d'État ». Quand Giscard est élu président en 1974, peu après, il va aller à Moscou et déposer une gerbe sur le mausolée de Lénine.
Les travailleurs.
Et voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait pour le peuple ? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs ? Qu'a-t-on fait pour les paysans ? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers ? Qu'a-t-on fait pour les commerçants ? Qu'a-t-on fait pour les artisans ? Qu'a-t-on fait pour les cadres ? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales ? Alors je vois qu'on m'a compris. Alors je vois qu'on m'a compris.
Donc vous voyez, il y a quand même un contexte idéologique qui accompagne cette montée sociale, pas seulement en France, mais à l'étranger, dont on va observer le retournement complet dans les années 80.
Alors, ce sont ces années-là aussi, par exemple, où il va avoir, parce que le patronat a peur aussi, des grandes conquêtes, importantes, hein, comme après-guerre, vous avez la création du SMIC, la quatrième semaine de congés payés en 69.
On parle de quelle date, là, Gilles ?
Les quatre semaines de congés payés 69, la création du SMIC 1970, la mensualisation des ouvriers 1970, l'accord sur les indemnités journalières de maternité 70, l'accord sur la formation professionnelle en 70 avec Jacques Delors. Il y a énormément de discussions entre le patronat. Et alors, à côté de ça, vous avez Et ça calme pas les ouvriers. Ça les calme pas pour autant. Il y a des grèves importantes. Il y a la grève des joints français, du joint français en Bretagne, qui va durer plusieurs semaines. Il y a plusieurs fois des grèves, notamment à Renault, sur la condition des OS. Le taux d'absentéisme augmente à Renault de 6 à 11%. On ne remet jamais, c'est une période où on n'a jamais autant remis en cause l'aliénation et l'exploitation du travail, notamment du travail non qualifié, peu qualifié. Il y a une vraie remise en cause aussi du travail. Il y a un très beau document, Le sang des autres, que j'ai pas pu mettre, et Michel et Stéphane le connaissent, où il y a un monologue qui dure au moins 2 ou 3 minutes d'un ouvrier qui parle de comment le travail posté à la chaîne lui détruit les mains. Et un texte qui est un texte littéraire où il parle qu'il ne peut plus lire, plus tourner les pages de son livre, où il ne peut plus toucher le corps de sa copine. Il y a une remise en cause comme ça, très profonde. Et au fond, et ça se passe pas qu'en France, ça se passe partout. Et effectivement, il est grand temps de les calmer.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. Les peinards, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien. Ah ouais, enfoiré, ouais. Moi, j'ai été remplacé par une machine, avec toute l'équipe de mecs qu'on était. Ah, une machine super, hein. Elle fait tout le travail à notre place, aussi bien ou moins aussi bien que nous, hein. Sinon mieux. Et puis alors, la machine, ça n'a pas besoin de salaire, ça n'a pas besoin de repos, ça n'a pas besoin de vacances, c'est jamais malade. Et pire... Ça a même pas besoin de travail. Parce que tout le monde gueule, on dit ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.
Ces gens qui courent au grand galop en auto-métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là.
Le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
S'il y avait 500 000 chômeurs, ce serait la révolution. Ainsi parlait Georges Pompidou dans les années 60. Eh bien, effectivement, ce fut une révolution conservatrice, la révolution néolibérale. Le film de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire, raconte ce retournement, raconte cette trahison aussi de la part des intellectuels, raconte aussi l'imposture médiatique à travers... Les acteurs, c'est-à-dire les salariés, les syndicalistes, les patrons, les médias, tous les protagonistes de cette histoire. On est avec Serge Halimi, avec Stéphane Beau et Michel Pialoux, qui sont tous deux sociologues et qui ont publié un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Retour sur la condition ouvrière chez Fayard. Qu'on évoque Gilles Balbastre, parce que tout ce qu'on dit sur cette époque post 68, avec ses avancées, ses exigences, la remise en question, et ça nos amis sociologues le savent, du travail lui-même. C'est là que l'an 01, par exemple, de GB, qui dit on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Il y a toute une tendance pour dire perdre sa vie à la gagner. La remise en question du boulot lui-même, du travail lui-même. Et ça, c'est une expression de cette époque qui semble tout à fait saugrenue aujourd'hui. On veut en avoir du boulot. Il n'est pas question de dire on veut pas travailler aujourd'hui. Hein. On en veut du boulot. Et ça se traduit aussi à la télé. Donc voilà, à la télé. Dans une émission dont vous donnez un extrait qui s'appelle Armes égales, c'est en octobre 70. Et c'est formidable parce que dans notre mémoire aujourd'hui, puisque Stéphane Beau dit, il faut bien penser ce qu'était le travail à l'époque, évidemment, par rapport à la précarité d'aujourd'hui, etc. Mais la télé de l'époque, on imagine un truc presque stalinien. Et en fait, à 20h30, à armes égales, il y a François Sérac et Georges Segui, hein, en prime time, on disait pas encore prime time à l'époque, qui s'affrontent avec des documents extraordinaires.
Oui, alors en fait, c'est la télé des années gaulliennes, c'est Pompidou, etc. C'est une
gaulienne, pas gaulienne, gaulienne.
Vous voulez pas gaulienne, là. Et effectivement, c'est une télé qui est soumise à la censure. Hein, c'est connu pour ça, c'est une télé qui est soumise à la censure. Et au fond, à 20h30, parce que la classe ouvrière, et au fond, on peut dire les salariés aussi, parce que faut pas résumer qu'à la classe ouvrière, les salariés, parce que dedans, il y a les employés, il y a aussi, on disait tout à l'heure, il y a eu des grosses grèves, par exemple, des employés de banque, hein, ils envahissent la bourse en chantant international. Je veux dire, ça fait quand même, on voit moins bien maintenant des employés de banque se chanter international en envahissant la bourse. Et au fond, ça se traduit à la télévision, ils sont obligés de passer ça. Et donc, il y a un débat, effectivement. Et cette émission a la particularité de faire par les invités un film de 15 à 20 minutes. Sérac fera son film et Segui fait son film. Et c'est un film fait par un réalisateur communiste de l'RTF, du reste. Très beau, hein, en noir et blanc. Un genre de plasticité à la russe. Hein, c'est magnifique. On dirait un ballet sur des sidérurgistes qui enfournent un four. Enfin, c'est quasiment un film de propagande aussi. Et il y a des phrases d'une violence. Hein, Segui qui a carrément à qui appartiennent les usines, à De Wendel, De Rothschild, etc. La deuxième question, c'est qui
profite.
Non, pas qui profite travaille. Tout de suite. Qui fait les richesses. Hein, ce sont les travailleurs, les salariés, nanana. Et qui profite de ces richesses. Ce sont une poignée de possédants. Et le film se termine.
Profiteurs.
Et ça se termine par la phrase de Marx, les travailleurs n'ont pas besoin des capitalistes, mais les capitalistes ont besoin des travailleurs. Et à un moment dans le débat, il y a ces Guy qui dit entente, mais il n'y a pas d'entente possible. On n'a pas les mêmes projets communs. Mais en attendant, faut discuter, en attendant que tout change.
Une grande partie de la classe ouvrière renforce les syndicats CGT et CFDT dans un rapport de lutte des classes avec le patronat. La télévision, pourtant soumise à une censure du pouvoir politique, s'ouvre à ce radicalisme, comme dans le cas de ce « À armes égales » d'octobre 70. Le film de la CGT, programmé à 20h30, juste avant le débat, entre François Sérac et Georges Segui, résume à lui seul l'état d'esprit de l'époque.
Première question. À qui appartiennent les usines? À qui appartiennent les usines?
Baron Antin,
appartient le Baron Rothschild, Dassault, Jean Prouveau.
Depuis le milieu des années 60, productivité accrue, accélération des cadences.
Deuxième question. Depuis le milieu des années 60, qui crée dans ces usines, des laboratoires, des ateliers, la richesse, les travailleurs. Troisième question. Qui en profite?
Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes. Les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes.
Gilles, s'il fallait une figure du dédain et du mépris, il faudrait garder la tête que fait François Sérac en regardant Segui.
Mais bien sûr. Mais c'est pas que, oui, mais en même temps, la peur aussi. Ouais. Parce que il y a un autre arme égale où il y a Eugène Descamps, le patron de la CFDT, et alors une autre CFDT que celle de maintenant, et Antoine Riboud, le patron de Mitterrand, le patron de Schumberger, le patron un peu de gauche, soi-disant, entre guillemets. Et je peux vous dire que c'est encore plus radical que, je l'ai pas montré ça, hein, mais c'est encore plus radical que le film de la CGT. On remet en cause la société de consommation, on remet en cause tout, à tel point que Alain Duhamel, le fameux Alain Duhamel là, qui existe encore, pose un moment à Eugène Descamps, mais tout ça, ça va se faire dans une société révolutionnaire. C'est magnifique d'entendre ça dans la bouche d'Alain Duhamel. Il est obligé de parler de société socialiste, révolutionnaire, autogestionnaire. Vous vous rendez compte ? J'ai pas pu le passer, c'est dommage, c'était savoureux, je veux dire. Ça, je me permets de vous le dire à votre émission. 10 ans après, il dit plus la même chose de père Duhamel, hein, à l'heure de vérité. Là, il pérore et c'est fini. Il peut tendre tendre le plat au patron.
Serge Halimi.
Juste une précision sur ces émissions. Vous dites qu'elles passent en prime time, mais elles passent aussi sur une télévision française où il n'y a à l'époque que deux chaînes.
Ah oui.
Ça veut dire que ce sont c'est vraiment des masses, des millions de personnes qui regardent cette émission. Ils regardent pas le câble, ils regardent pas Canal+, ils regardent ça. C'est vraiment la grande réunion de la famille, du groupe le soir, c'est pour regarder ce genre de débat et pour voir ce genre de film.
Il y a des images qui pour moi sont bouleversantes, c'est celle de LIP. LIP 73 et l'autogestion.
Venez soutenir les travailleurs de chez LIP. Soyez solidaires.
Au printemps de l'année 1973, un conflit éclate dans la célèbre manufacture de montres LIP à Besançon. 1300 salariés se mettent en grève pour protester contre le dépôt de bilan de leur entreprise qui menace 480 d'entre eux. Ce conflit, qui va s'étaler sur plusieurs mois, va non seulement mobiliser une région entière, mais aussi une grande partie des Français, des syndicats et des partis de gauche. Au-delà du mouvement de protestation contre les licenciements, c'est surtout la façon de mener la grève qui va retenir l'attention. Un mot est lâché, autogestion. L'heure est encore à l'espoir de changement des formes de production.
Quand on a commencé à manifester en 73, on descendait en ville, il y avait toutes les voitures qui partaient, on klaxonnait, on arrivait en ville, tout le monde regardait, tiens, voilà les LIP, et nous on criait non au démantèlement, non au licenciement. Mais ce qu'on disait aussi, c'était la façon dont on s'était organisé dans l'usine, la démocratie, les commissions de travail où tout le monde s'inscrivait, c'était LIP, c'était une vraie ruche où tout le monde travaillait, où tout le monde s'organisait à sa façon.
Alors, effectivement, mais ça c'est rigolo de revoir ça parce que en même temps il y a un débat. On le met juste un peu en filigrane hein, avec Rocard et Chevènement justement, on les a interviewés où l'importance de LIP. Moi j'étais gamin hein, donc j'avais 14 ans, c'était mes débuts d'année militante et LIP c'était formidable. Et au fond c'est vrai que Chevènement met un petit bémol sur LIP et en même temps enfin il met un bémol parce que c'est une autre gauche. Hein. Il y a des débats au sein de la gauche. Au fond il n'y a pas que Chevènement, hein, Rocard aussi. Hein. On a même Nota qui nous dit qu'elle a fait sa première manif pour LIP. C'était à l'époque où elle faisait encore des manifs. Et donc, effectivement, il y a une classe ouvrière qui est encore combative. Effectivement, LIP, après, on peut glosser, hein, on peut discuter même en termes de est-ce que c'était réaliste ou pas, nanana. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ce sont des luttes combatives. C'est-à-dire, ce sont des licenciements. Il y a 400 à 500 licenciements prévus. Mais face à ce licenciement, on se bat et on va proposer. On va proposer. Alors, 5 ans après, on se battra pour essayer de garder ce qui reste et pas proposer. C'est vachement différent. Donc, à la limite, sur les premiers licenciements, les premiers gros licenciements, il y a des combats à tel point que ça va se propager en France. Il y a de vrais combats comme LIP. Hein. LIP, en deux secondes, quand même, c'est important pour ceux qui n'ont pas cette mémoire-là, c'est qu'ils vont prendre le trésor de guerre. C'est les montres, ce sont les montres. Ils vont les garder, ils vont les vendre et ils vont en fabriquer. Et ils vont pour ça faire des commissions et c'est une entreprise qui est gérée de façon autogestionnaire et ça va se propager en France. Il va y avoir des centaines de cas de petits LIP à tel point que par exemple on va montrer un film militant d'une scène de grève en Vendée qui est vachement rigolo.
C'est très beau ça.
Les ouvrières, c'est un genre de comédie musicale où les ouvrières chantent « Ah qu'est-ce qu'il est doux de travailler pour nous » et on les voit en train de lire un livre, on les voit en train de se brosser les cheveux. Qu'est-ce que ça fait du bien, en fait.
La lutte des LIP marque à ce point les esprits que dans les années 73 et 74 éclatent des dizaines d'autres conflits du même type, propageant dans la France entière cette idée d'autogestion. Les ouvrières de l'usine Couseau, en Vendée, connaîtront pendant 109 jours de grève la liberté de travailler pour elles.
Fabriquée par des ouvrières sans chef ni patron.
Un après-midi, on avait reçu les informations de LIP. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas, on fabriquerait pas des chemisiers? Alors on a décidé à trouver des machines, enfin, on avait nos machines familiales.
Et depuis, on fabrique des chemisiers, puis...
Travailler pour nous est agréable, travailler pour nous c'est doux, faire pour la chemisier, maintenant on est capable, travailler pour nous c'est agréable.
Stéphane Beau, Michel Pialoux, alors vous observez ça en sociologue, est-ce que c'était viable?
Pour cette autogestion.
ça montrait que des possibilités formidables existaient dès qu'on faisait travailler autrement. C'était un thème. Et la figure de Piaget, là, qui était le militant CFDT, a vraiment été un phare de l'époque. Et des possibilités certainement existaient. C'était lié à tout un mouvement de contestation très violente de l'organisation taylorienne, super hiérarchisée. La France était le pays de l'Europe occidentale où le taylorisme avait été mis en place de la façon la plus terrible, notamment dans les usines d'automobiles, parce qu'on disposait d'une main d'œuvre venant des campagnes. À très vite, on allait faire un appel massif. Alors, à partir de 89, la progression des Maghrébins, des Portugais, des Yougoslaves, à partir de 69, voilà. Dans l'euphorie économique qui a suivi 68, elle progresse dans les usines formidablement. Dans la région parisienne, c'est 50-60% des gens qui sont des immigrés. À Peugeot, c'est 20% à ce moment-là. Après, ça va redescendre à 7-8%. Mais il y a un climat de contestation de ces formes du travail qui apparaît chez les jeunes travailleurs, qui est intense. Alors effectivement, ce qu'on va reprocher aux militants de l'IP, c'est d'être aveugle sur la compétition internationale, parce que ce qui est en cause, c'est
le chevènement rappelle dans le film de Balbastre. Hein.
Voilà.
Mais
voilà.
Il a pas tort non plus. L'achevènement refroidit l'enthousiasme.
L'image est belle de perspective. Piaget a failli être candidat, on voulait que Piaget soit candidat aux élections présidentielles en 74. Vous voyez la différence de l'époque. À l'époque, on voulait Piaget, maintenant on a ma mère. Vous voyez, donc, effectivement, c'est quand même une autre époque. On avait un ouvrier représentant une idée de changement du travail, maintenant on a un journaliste qui veut se faire mousser. C'est quand même, effectivement, ce sont des époques très différentes.
Piaget se bat toujours, milite toujours, assez contre le chemin.
Oui, sur le basculement, Gilles Balbastre rappelait tout à l'heure que 400 licenciements en 1973, ça avait provoqué un mouvement social de très grande ampleur, une solidarité nationale, une explosion de créativité. 10 ans plus tard, en 1984, il y a 300 000 chômeurs de plus dans l'année, passivité, désespoir, un discours de la soumission et une véritable pédagogie du renoncement. On voit à travers ces deux exemples, 400 licenciements dans un cas, 300 000 chômeurs de plus dans l'autre, le changement d'époque.
Du bon usage du chômage. Le chômage, ça sert à quoi? Le chômage, c'est un bon chien de garde. Gentil travailleur, sois bien sage, sinon, gare au chômage.
À partir de ce moment-là, le progrès technique fait qu'il y a constamment des industries qui périclitent. Fait que constamment, la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup plus de machines. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. Comme un problème permanent. Comme un problème
permanent. Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'à quelque fois 800-900 bonhommes. Tandis que vous avez des usines qui emploient 60-70 bonhommes.
En permanence, on devra veiller.
Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de
ce que l'emploi soit assuré aux Français.
Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Nous serons donc en risque permanent.
La grève avec occupation des usines est adoptée à l'unanimité ou à l'unité. Les travailleurs manuels, intellectuels et la population exigent la satisfaction de leurs revendications.
Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68.
Première question. À qui appartiennent les usines? À qui appartiennent les usines?
Le baron Rothschild,
Dassault, Jean Prouveau.
Un
printemps de l'année 1973, un conflit éclate dans la célèbre manufacture de Montrelip à Besançon. Les ouvrières de l'usine Couseau, en Vendée, connaîtront pendant 109 jours de grève la liberté de travailler pour elles. Productivité accrue, accélération des cadences, mécanisation du travail. Depuis le milieu des années 60, productivité accrue, accélération des cadences,
deuxième question. Depuis le milieu des années 60, qui crée dans ces usines, des laboratoires, des ateliers, la richesse, les travailleurs.
Et voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour le peuple? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs? Qu'a-t-on fait pour les paysans? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers? Qu'a-t-on fait pour les commerçants? Qu'a-t-on fait pour les artisans? Qu'a-t-on fait pour les cadres? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales? Alors je vois qu'on m'a compris. Alors je vois qu'on m'a compris.
Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes.
Qu'auparavant, il y a 20 ans ça, on embauchait directement au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Et non, maintenant, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ça ne se fait plus, je pense. Vous rentrez ce soir, peut-être que demain, j'arrêterai mon contrat.
Qui plaise en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux pour chasser les soucis, les tracas, les ennuis et voir tout sous un jour brillant. Suivez ce remède excellent, sifflez en travaillant pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant.
Bon, c'est le stress de l'intérim, quoi. C'est pour pas dire vraiment que ce soit vraiment un ouvrier, parce que bon... Vous allez travailler dans une entreprise, comme demain vous allez nettoyer les trottoirs, comme après-demain vous allez faire autre chose. Quand vous rentrez dans l'intérim, c'est plus un ouvrier, de toute façon c'est clair.
Sifflez en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Sifflez un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux pour chasser les soucis, les tracas, les ennuis et voir tout sous un jour brillant. Suivez ce remède excellent, sifflez en travaillant pour vivre heureux, toujours content, sifflez en travaillant.
Chômeurs, rendez-vous, vous êtes cernés. Sortez immédiatement de votre exclusion. Dernière sommation. Sortez en marche arrière, la tête baissée. Vous allez être réinsérés par nos travailleurs sociaux. Rendez-vous sans condition.
Il est 8h, il faut travailler. Ouais. Il est 8h, il faut y aller.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet. À la technique, les travailleurs Étienne Misca et Gaëtan Colli. Réalisation Antoine Chao, assisté de Joël Levert et Coy Nguyen. Chef répondeur Christophe Imbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez plusieurs possibilités. Le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Le fax 01 56 40 41 07. Ou l'email daniel.mermet@radiofrance.com. Un rendez-vous à noter, le chômage a une histoire, sera projeté le 9 mars dans le cadre du festival Critique sociale du capitalisme, salle Alain Colas, 53 rue Marbrerie à Lille, à 15h, enseignement au 06 63 57 07 72, je répète, 06 63 57 07 72. Prochain rendez-vous avec Daniel Mermet, c'est demain à 17h sur France Inter.